constate le quorum, donc au niveau de l'ordre du jour, il va y avoir l'adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 septembre. On a ajouté un point, 1.5, modification de la résolution 2024-2028 concernant le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. Il y a le point dépôt de communication, finance, présentation des comptes, engagement des crédits, adoption, financement, dépôt des états comparatifs. Donc, Mélissa va nous faire une présentation. Et ça, travaux publics, renouvellement de l'entente pour le déneigement du stationnement de Marais du Nord, plus un mandat pour la réfection de l'avenue du Ruisseau et des rues des sentiers et du manoir, mais il a été reporté. Il est reporté à cause de quoi, monsieur? Il n'est pas là.
À cause des élections.
Urbaniste, demande d'autorisation mineure concernant l'immeuble 94-96, avenue des Monts. C'est un point qui est reporté. Le 6.2, une demande d'érogation qui est reportée encore. Et le 6.3, d'érogation mineure, 2025-01-45, reporté. Point. Après ça, ça nous amène à la période d'intervention des maires, période de questions d'ordre général, puis levée de l'Assemblée. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour.
Je vais proposer M. Marc Tabaker, appuyé par moi, Alexandre Morin.
Très bien. Donc, adoption du procès verbal du 8 septembre 2025. Considérant que les membres du Conseil ont reçu dépôt du procès verbal suivant le directeur général dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture, je vais donner une proposition pour adopter le procès verbal de l'Assemblée du 8 septembre.
Je vais proposer, moi, monsieur.
Marc propose.
Je l'appuie.
Jonathan. Merci. Donc, la modification de la résolution 2024-2028 concernant les calendriers des séances ordinaires, ça va donner une proposition que le Conseil adopte, accepte la modification du calendrier des séances ordinaires.
Je vais proposer, M. Maillard.
Je propose.
Je vais l'appuyer, M.
Merci. Correspondance et dépôt d'information. Vous avez une liste, M.
Oui.
Oui, OK. Finances et administration. Donc, adoption des comptes à payer et recevoir.
Je vais
aller. Je vais aller, s'il vous plaît.
Oui, donc, aux comptes à payer, considérant que les comptes à payer au 1er octobre 2025 totalisent un montant de 326 615 et 25 205 pour les salaires. Considérant que chacun des conseillers a reçu une copie de la liste des comptes fournisseurs, des factures payées par paiement électronique et des chèques émis sans résolution, il sera proposé que la liste est appuyée, que la liste des comptes à payer soit acceptée et que soit autorisé le paiement des comptes fournisseurs au 1er octobre 2025 et ce, selon les échéances prescrites. Donc, je vais proposer.
Oui,
Merci.
Au niveau des comptes à recevoir, donc les taxes, M. François Tourneau, directeur général, dépose la liste des taxes à recevoir au 1er octobre 2025. Donc, qui totalise un montant de 144 680 000. Voilà. En 3.2, on a le dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2025. Donc, M. François Morneau, directeur général, dépose devant le Conseil les états comparatifs au 30 septembre 2025, tels que prescrits par la loi, soit au moins 4 semaines avant la séance au cours de laquelle le budget sera adopté. Là, on voyait finalement le budget, ça va aller en janvier.
Parce que d'habitude,
c'est en décembre qu'on fait ça,
la cause
des élections. Ça va aller en janvier. Donc, j'invite Mélissa à nous faire.
On va finir, Mélissa.
Oui,
parler.
Le PV, puis après, je vais
redonner. Ouais, on va finir aux travaux publics, puis après ça, Mélissa va. Donc, Alex.
Oui, aux travaux publics, en 5.1, c'est le renouvellement de l'entente pour le déneigement du stationnement du Marais du Nord. Donc, il sera proposé que le Conseil poursuive la collaboration avec Algiro du lac Saint-Charles en acquiescent à sa demande de déneigement du stationnement du Marais du Nord au hiver 2025-2026, et ce, uniquement aux conditions suivantes. Lors des opérations de déneigement, la ville de Lac-de-Lage ne pourra être tenue responsable de bris occasionnés aux infrastructures de déneigement aux biens des Marais du Nord, ainsi qu'aux véhicules laissés sur ou à proximité du stationnement. Aucune voiture ne devra être présente dans le stationnement des Marais du Nord lors des opérations de déneigement exécutées par les employés de la ville de Lac-de-Lage. Le déneigement du stationnement du Marais du Nord sera exécuté uniquement après les opérations de déneigement des voies publiques de Lac-de-Lage auront été réalisées. Les opérations seront réalisées uniquement lorsque les employés seront également appelés pour des travaux sur le territoire de Lac-de-Lage. Cette collaboration aux travaux de déneigement se fera seulement avec les équipements appartenant à la ville. Les services de souffleuse ne sont pas inclus dans cette proposition. S'il s'avérait qu'en raison d'un encombrement trop important de neige sur le stationnement des Marais du Nord, les employés de la ville de Lac-de-Lage ne pouvaient procéder au déneigement avec les équipements disponibles, la ville de Lac-de-Lage mettrait fin momentanément à cette entente jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Donc, je le propose moi-même.
Je vais voter par la liste.
Je vais
le
proposer.
Merci. En 5.2, on avait mandat pour réfection de l'avenue du Ruisseau et des rues des Sentiers du Manoir. Ce point est également reporté. Donc, 6 sur Bernice.
6 sur Bernice, les 6 points d'allégation mineure ont été. 3 points, excusez. 3 points ont été reportés.
Je pourrais dire aux propriétaires, s'il y en a dans la salle ce soir, de ne pas s'inquiéter, parce que le CCU s'est penché sur les 3 demandes de dérogation pendant au moins 1 heure et demie. On a bien fait le tour de la question avec lui. Puis c'est positif pour les 3, mais pour une raison qu'on dit d'ordre légal, on nous a conseillé de ne pas le faire pour ne pas démontrer que, mettons, en dernier. Réunion de notre mandat, on passait à 3 dérogations dans le temps de dire. C'est quand même la première fois qu'il y en a autant que ça d'un coup sec. Mais inquiétez-vous pas, c'est tout bien correct. On est bien analysé, puis c'est positif pour les trois. C'est des deux, entre autres, c'est des ventes de maisons. Fait qu'on ne faut pas démolir les maisons là, pour une petite galerie, mais un petit centimètre d'excédent. Des choses évidentes.
OK. Donc, on est rendu à la période d'intervention des membres du conseil.
Oui, moi, je tenais. En fait, c'est que, bien, toujours dans l'optique, dans la situation qu'on se retrouve et tout, c'est juste que moi, j'ai assisté, en fait, sur la fin de semaine passée, c'était le FQM. Donc, Fédération québécoise des municipalités, et j'ai découvert une super belle application qui s'appelle Care City, vraiment pour justement, puis accessible, parce que d'habitude, quand tu vas là, tout coûte cher, t'es comme pas, c'est faux, mais tu sais, c'est tellement dispendieux. Donc, c'est vraiment accessible, je trouve, pour la ville. Donc, c'est une forme d'application vraiment pour améliorer les communications et plus du instantané. C'est quelque chose que tu peux aller dans la plateforme, puis après ça, c'est distribué sur le Facebook, parce qu'on revient, là, notre plateforme de communication, c'est pas citoyen du Lac-de-Lage. On est tenu, même nous, de ne pas faire de communication par là. Donc, c'est super important de comprendre ça. Puis c'est fun parce que cette application-là, ça permet d'avoir des communications instantanées par texto aussi. Donc, je sais que ça ne rejoint pas tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a des cellulaires. Mais quand même, Mélissa, ça prend la peine quand il y a vraiment des urgences, parce que toutes les urgences aussi peuvent passer par là. Et je sais que Mélissa, ça prend la peine d'appeler vraiment les personnes
vulnérables. Sont toutes appelées à chaque panne, tout le temps. C'est toujours moi qui les appelle. Quand c'est plus urgent, je m'arrange pour que quelqu'un sur place y aille, parce que moi, je reste pas au Lac-de-Lage. Mais tous nos doyens, toutes les personnes vulnérables, tous ceux qui ont des besoins particuliers qui me l'ont mentionné, j'ai toujours pris la peine de toutes vous contacter, vous assurer que vous étiez correct, qu'il vous manquait de rien.
Fait que c'est ça. J'ai poussé un peu, mais ils n'ont pas voulu. J'espère en tout cas pouvoir vous présenter quand même en novembre, puis le pouvoir le mettre de l'avant pour c'est ça, répondre à tous nos enjeux de communication. Puis, c'est vraiment une belle découverte. Tu vois que les outils évoluent, puis sont de c'est ce que je veux accessible. Donc, voilà, je vais vous en partager.
Merci.
J'aurais également un point dans la période d'intervention. C'est notre dernière séance avec ce conseil, puis Jonathan ne se représentera pas. Donc, je tenais à personnellement remercier Jonathan pour les 8 années de participation, de dévouement. J'ai vraiment apprécié travailler avec toi. Ça a été des bonnes années. On a fait plusieurs jours aussi ensemble, puis on continue d'être amis. Mais je suis déçu de devoir partir, puis je te remercie pour ton rôle.
Aussi, Mme Gosselin,
qui a
quitté à 2 dernières séances parce qu'elle est trop prise dans son projet de ressourcerie. Ils sont en train de refaire un immense bâtiment, il y en a beaucoup de difficultés. Donc, elle a quitté aussi le conseil pour se consacrer à la ressourcerie. Alors, elle aussi, c'est pour la
une motion de remerciement.
Oui.
OK.
Parfait.
Mélissa, tu vas faire la...
Avec plaisir.
Merci.
Fait que, aujourd'hui, je vous présente les états financiers au 30 septembre. C'est une obligation de la loi. La première étape, dans le fond, c'est toujours de faire un comparatif avec l'année précédente. Fait que j'ai vraiment pris le réel accumulé au 30 septembre 2025, puis on a le solde réel au 30 septembre 2024. Dans la partie du haut, vous voyez que c'est les totales de revenus. Ce que j'ai mis en orange, c'est que dans le fond, c'est la partie qui a le plus changé. Ici, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de ventes de maisons qui ont été vendues en 2025 versus 2024. Mais sinon, c'est vraiment similaire au niveau du comparatif. Puis au niveau des dépenses, ben, ce qui fait toujours sursauter, c'est l'excédent au 30 septembre. On a un excédent de 550 762 qui est très explicable. C'est que tous les versements là, au niveau du financement, toutes les emprunts qu'on a, on a toujours des gros paiements en octobre, en novembre et en décembre. Ce qui fait que notre surplus est toujours élevé au 30 septembre. Sinon, le reste est quand même très similaire. Bien, ce que j'ai décidé de faire... J'ai décidé de prendre, dans la deuxième partie, là, j'ai vraiment pris tout ce qui est revenu, tout ce qui est dépenses. On part avec ce qu'on a adopté en budget en décembre, le réel au 30 septembre, puis l'estimé au 31 décembre de chaque année, et j'ai mis les écarts. Quand il y a des gros écarts, j'ai été marqué des explications pourquoi, afin de pouvoir vous donner des informations. Fait qu'au niveau des revenus, dans le fond, au niveau des taxes, le budget versus l'estimé au 31 décembre, on a un écart de 7 000 $. La seule explication, c'est qu'au niveau de durant l'année, on a des mises à jour qui sont faites de coopératives, qui peuvent être des permis, qui peuvent être des ventes, qui peuvent être toutes sortes de choses. Fait que quand on a un ajustement, une mise à jour, ben moi je facture, fait que des fois ça joue sur le rôle. Mais c'est la seule raison pour laquelle... Au niveau de la taxation, ça peut changer. Sinon, ben, quand c'est taxé, c'est fait pour l'année. Ensuite, dans la tarification, ça n'a pas changé. Les écarts sont très minimes. Dans les autres revenus, c'est la même chose. Puis dans l'imposition des droits, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup plus de maisons qui ont été vendues. Nous, au budget, on avait prévu 43 000 de droits de mutation. Puis, au 30 septembre, j'étais rendue à 126 610. Ce qui fait qu'au 30 septembre, j'ai déjà 80 000 au-dessus de ce qui était prévu.
Juste pour préciser, au niveau des montants, c'est qu'il y a eu la vente de maisons, mais aussi la valeur des maisons qui sont...
Tout à fait. Parce qu'on s'entend que, dans le fond, cette année, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été vendues sur l'avenue du Rocher. On sait que les maisons, ils ont quand même une plus haute valeur qu'une maison qui est des fois en haute ville. Fait que ça fait que la vente, le droit de mutation est quand même plus important aussi. Fait que, ça ne veut pas dire que c'est quantitatif, mais plus un total au niveau du droit de mutation. Ensuite, dans l'intérêt, amende et pénalité et autres, les gens, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ont payé les taxes qui étaient en retard de l'année passée ou quelque chose. Ça fait que dans notre revenu d'intérêt, ben, on a eu un gain supplémentaire de 23 720 durant l'année.
et dans le transfert conditionnel. Dans le fond, c'est une subvention qu'on reçoit du programme de la voirie locale. C'est une subvention qu'on a à toutes les années, mais on ne la sait jamais avant le 1er avril. C'est le député Lévesque qui nous offre l'enveloppe à chaque année. Nous, on présente des projets, puis c'est eux autres qui décident le montant. Fait que c'est un montant qui n'est jamais prévu dans le budget, mais vous allez le revoir, vous allez le voir dans les dépenses. C'est un inénant. Fait que ça fait le tour pour au niveau des revenus. Fait que notre budget adopté était de 1 800 481. Puis le budget réel est de 1 941 227, ce qui fait 140 746.
Est-ce que vous aviez des questions dans les revenus?
Fait que je vais faire la même chose dans ce qui est les dépenses. Donc, au niveau administration, j'ai un écart de 9 691 estimé au 31 décembre. Vous savez qu'on est en élection. Avant, la formation des élus était donnée par la MRC, c'était tous les autres qui géraient. Ça passait dans une fin de semaine, c'était eux autres qui engageaient les coûts. Maintenant, il n'y a plus dispensé par eux, et vraiment aux frais de la municipalité. Fait que j'étais allée chercher les coûts, comment ça allait coûter et tout. Fait qu'on s'attend à un montant de 5 100 $ au lieu de 1 200 $ qui était budgété. Ça fait quand même une partie des surplus qu'on doit consacrer. Puis au niveau des mises à jour et du dépôt de rôle, bien, le groupe Actus, ils vont avoir coûté 10 000 de plus que prévu au niveau du budget. Au niveau de la sécurité publique, ben, c'est juste 2 000, mais des fois ça peut arriver, là, c'est quand même dans le total, mais c'est quand même minime, donc je n'ai pas mis d'explication. Au niveau du transport routier, ça comprend la voirie, ça comprend le déneigement, ça comprend la sécurité, ça comprend la circulation. Fait qu'au total, on a un écart de 13 000 $. Cette année, on a fait venir deux fois le Versatile, ce qui est un souffleur pour élargir les rues quand ils deviennent trop minces. Bien, c'était un 4 000 $ qui était pas prévu. J'ai la formation à Pierre qu'on n'avait pas tout à fait inclus le nombre d'heures employées, ce qui fait que la formation coûte un petit peu plus cher. Puis, comme je vous ai parlé tout à l'heure du programme de voirie locale, ben, je vais aussi le mettre dans mes dépenses. Puis, ce qu'on va réparer, c'est un ponceau. Ça va être un ponceau qui est extrêmement dangereux. Donc, je dois mettre un 13 000 de dessous de la voirie, puis la subvention pour pouvoir acquitter les travaux. Dans l'aménagement, l'urbanisme et le développement, on a un petit dépassement au niveau juridique de 7 000 $ qui est 19 000 au lieu de 12 000. Toutefois, ça ne touche pas un 47. C'est seulement un nouveau dossier qu'on a avec l'immeuble Démont qui fait que ça va engendrer des coûts supplémentaires juridiques. Ensuite, on a pris 3 000 $ qui étaient déjà alloués dans le budget au niveau de l'urbanisme, Christian Côté pour aider. Sauf qu'on a engagé le Schneider comme stagiaire cet été pour s'occuper des mises aux normes des piscines. Fait que ça m'a permis qu'ils puissent s'occuper juste de ça. Puis ensuite, on a parlé tout le monde, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin au niveau des permis. Fait qu'on l'a extensionné un petit peu, ce qui a fait qu'on a mis un 12 000 supplémentaires, vu qu'on avait quand même des gains au niveau des revenus, pour qu'ils puissent dégorger les permis de construction.
Ouais, à cet égard, on a un problème, c'est qu'il faut se rendre conforme au schéma d'aménagement. Et comme on avait beaucoup de demandes de nouvelles constructions, de demandes de permis, René Dewin n'avait pas le temps de faire la concordance. Donc, tant qu'on n'est pas concordant avec le schéma d'aménagement, on ne peut faire aucune modification de zonage. Donc, puis on n'est pas les derniers, mais je pense qu'on est dernier à la MRC à le faire. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé, on a engagé Schneider Augustin pour pouvoir dégager René. Parce que c'est un travail quand même, il faut se concorder au règlement de contrôle intérimaire de la MRC, de la communauté métropolitaine de Québec. Il faut se rendre conforme au schéma. Donc, c'est tout un ajustement réglementaire qui n'est pas simple. Là, on ne peut pas faire ça à travers 56 000 permis. Là. Ça explique là,
ouais. Oui, puis aussi, dans le fond, il s'occupe de la mise aux normes des fosses septiques, qui est un programme avec la Ville de Québec. Fait que nous, on refacture la Ville de Québec quand même les heures à René qui fait sur ce dossier-là. Donc, on a quand même un revenu de presque 10 000 qui réduit le montant de la dette au niveau de l'urbanisme. Au niveau parc, loisirs et culture, dans le fond, ça, on a un écart, mais ce qui arrive aussi, c'est que, mettons, la Saint-Jean, l'Halloween, bien, c'est toutes des subventions que j'ai. Mais ces subventions-là, ils sont dans mes revenus. Fait que dans ce temps-là, je ne réduis pas ma dépense, je vais quand même avoir les deux dépenses, ce qui explique la partie du dépassement. Pour ce qui est des frais de financement, donc, on a 4 500 $ qui est de moins, puisque l'emprunt au niveau des bouts, vu qu'il n'est pas encore contracté, bien, je n'ai pas le premier versement qui est dû 6 mois après. Fait que, vu que je ne l'ai pas fait avant là, ça va aller jusqu'au printemps. Fait que c'est un gain qu'on n'avait pas besoin de dépenser.
Si tu permets, je voudrais qu'ajouter.
Oui.
La vidange des bouts, qui est une grosse opération, on a fait un règlement d'emprunt de près de 200 000 $ Il est complété au moment où on se parle. Il est en train de démobiliser son équipement. On va peut-être avoir un petit gain avec ça parce que finalement, le volume de boue a peut-être été mal estimé. Donc, on a sorti 70 000 à peu près mètres cubes ou tonnes métriques de stock. On estimait à 110 000 au départ. Donc, comme c'est payé à la tonne métrique puis qu'il y a un taux unitaire, on va peut-être avoir un gain. Là. Ça va peut-être coûter un peu moins cher. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Puis l'autre affaire, ben, l'atmosphère va être un peu plus odorante.
Il faut préciser que c'est quand tu dis « nous », on évalue, c'est pas ça. C'est,
Non, c'est des...
Nous, on fait mesurer les bouts par une firme qui a été vêtée, qu'on a donné la résolution. Les autres fonctionnent avec des drones. Fait que des fois, peut-être que la quantité estimée... Mais là, on parlait de 110 tonnes métriques, puis on parle de 70 qui serait...
Donc, la mobilisation, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça, c'est là qu'il fait son gain. Après, si c'est moins de tonnes qu'il ramasse, c'est payé tant la tonne. Fait qu'on va, on s'estime peut-être à 40 000, je ne sais pas, mais c'est de l'ordre qu'on pourrait sauver. Mais par contre, on a des ponts qui ont toutes tendance à lâcher en même temps. Parce qu'ils ont tous le même âge et c'est des brosses, hein, c'est des moteurs avec des brosses. Fait que les brosses ont toutes la même usure. C'est quoi, 2000?
C'est 8-9 000 par pont. Puis là, on en a 5. On en a 2 de réparer, il y en a 2 en réparation, puis il en reste une à faire réparer. Sur 6, on est content, il va en rester juste une. Mais c'est quand même 30-40 000 qui est supplémentaire.
Éventuellement, on pourrait vous faire une présentation de toute cette opération parce que des fois, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Hein? C'est peut-être intéressant de savoir où ça se ramasse.
Juste une question par rapport à ça, parce que
je trouve
ça super intéressant au sujet. Est-ce que le niveau, si je peux me permettre, de d'efficience de nos traitements d'eau
oui.
est à la fine pointe en ce moment ou bien
en fait, c'est des vieilles technologies. Okay? On s'entend, là, les bassins d'épuration, là, les états aérés, c'est la technologie bas de gamme, on se dit. Là. Par contre, on est hautement surveillé. On s'est fait dire lors d'une rencontre avec nos ingénieurs que. Avec Stoneham et Lac-de-Lage, on était les deux usines les plus problématiques en termes de contrôle. Mmh. À cause que nos effluents, en fait, ce qu'on rejette dans le lac Saint-Charles, qui est une réserve d'eau potable, doit avoir des normes de rejet phosphore très, très, très minimes. On parle de 0,3 mg par litre. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut ajouter énormément de flocculants, ce qu'on appelle de l'alum. Ça pourrait être aussi sulfate de fer. Nous, on travaille avec de l'aluminium. Ceux qui ont des piscines brouillées le printemps, souvent, c'est ce qu'on met. On met de l'alum. Donc, ça décante les bouts. Et c'est ces bouts-là qu'on ramasse. Le problème qu'on a actuellement, puis c'est un des problèmes que notre fournisseur a eu comme problème, c'est que comme l'alum est très concentré, parce qu'on en met de bonnes quantités, il y a de la misère à départager l'eau de la boue organique. Fait que nos géotubes, là, qui sont pleins, il y a beaucoup d'eau. Ils vont devoir décanter pendant au moins un an. L'eau va s'extirper des géotubes, la boue va se concentrer. L'autre problème, c'est que comme il y a beaucoup de contaminants, parce que l'alum, c'est un contaminant quand il y a une en forte concentration, donc on ne peut pas les étendre dans des terres agricoles. Donc ça doit aller dans un champ, un site d'enfouissement. Alors il y a aussi un coût associé à ça. Fait que l'an prochain, si la consolidation est faite, il y a des équipements, là, des pelles mécaniques, ils vont tous ramasser ces géotubes-là et ils vont les enfouir. Okay. Donc, ça fait partie aussi de la facture là, finale.
Puis, est-ce qu'on budgète
pour l'avenir? Pour essayer de ça, c'est...
Très bonne question. En fait, on veut faire, dans plusieurs domaines, là, puis le gouvernement nous incite à le faire, à se faire une réserve pour ne pas avoir à faire des gros emprunts à chaque fois, aux 5, 7, 8 ans, dépendamment du besoin. Ça, c'est une chose. Donc, s'il y a un résiduel dans l'emprunt qu'on fait, peut-être ça pourrait servir à ça. OK? Pour ne pas avoir à faire des emprunts dans le futur. Et par ailleurs, il y a un mandat qui est donné à une firme pour optimiser notre usine sans agrandir les étangs. Comment on pourrait améliorer le traitement? Alors, là, on a eu plusieurs visites de fournisseurs qui nous proposent toutes sortes de choses. Mais il y a une firme qui doit faire une étude d'opportunité, voir qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour augmenter notre capacité en matière de rejet phosphore. Limiter le rejet phosphore. Et nous, on pense aussi, c'est que dans un moyen terme, ils vont nous demander la même chose pour l'azote. Au Québec, on n'est pas en avance sur ces questions-là. En Ontario, ils sont beaucoup plus avancés, donc ils ont des exigences de rejet azote, ce qui est aussi responsable des blooms d'algues et tout. Bon. Alors, on y va dans cet esprit-là. Comment on peut optimiser ce qu'on a là sans agrandir les étangs? Parce que vous vous souvenez que l'hiver dernier, on a passé une réglementation pour limiter, en fait même, interdire tout nouveau développement pour 2 ans, tant qu'on n'aura pas optimisé notre... Parce qu'actuellement, là, on tient ça à bout de bras, là, le 0.3 mg par litre. Parce que c'est une bibitte vivante, les étangs aérés. Hein? Ça marche avec la température, avec la pluie, ça marche avec la neige. Donc, l'hiver, c'est moins performant. Donc, c'est une surveillance. D'ailleurs, on parlait de la formation de Pierre Dolbecq. C'est une formation, justement, pour toute la question de comment gérer ces usines-là. Ça peut être accrédité. Il y en a pour l'eau potable, puis il y en a pour l'assainissement. Donc, ça fait partie des formations qu'on doit fournir à nos employés. Ça fait le tour?
Ben, ça fait le tour. Okay. Non, mais je veux juste qu'on s'assure. En fait, ma crainte, c'est qu'on soit pris dans une situation où on est mal pris, on n'a plus de capacité, puis on, un peu comme nos faux sceptiques, à un moment donné, il faut les changer, puis on est pris devant un coût important. Mais tu sais, s'il n'y a pas de subvention, il n'y a rien, la ville va être dans.
En complément d'information, Stoneham ne peut pas faire aussi aucun développement actuellement, aucun raccordement pour la même raison.
Ouais.
Alors, eux autres aussi sont pris avec ça.
Ben, c'est ça. OK, ben, merci.
Moi, ma question, c'est on parle de nos faux sceptiques, ceux qui en ont, on a eu une subvention pour ça. Mais est-ce que le restant de la ville a une subvention pour ce qu'on veut parler?
En fait, c'est dans le cadre de la programme, ce qu'on appelle le programme TEC. C'est un programme qui est associé à la taxe d'acide sur l'essence. C'est le programme qui nous permet de mettre à niveau toutes nos installations septiques, nos installations sanitaires, aqueducs et pluviales. Donc, dans le cadre de cette subvention-là, on a 600 quelques mille dollars. Et nous, on doit planifier les réparations qui sont urgentes en matière de réseau sanitaire et d'égouts, entre autres sur la rue du Manoir. La rue du Manoir, c'est l'une des plus vieilles rues de la ville. C'est de la forme grise. Pour un tuyau comme ça, il doit rester à peu près ça dedans parce que tout est plein de fer, d'oxydation de fer et autres. Il y a l'avenue du Ruisseau aussi qui est très problématique, et l'avenue des Sources. Bon, actuellement, on a une conduite pluviale de boucher, là. On la surveille, là. Ben là, on est chanceux, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, mais ça va être l'objet d'une surveillance accrue cet hiver, parce que si il y avait un refoulement sur la rue, là, il faudrait aller pomper. Donc, c'est des investissements. Hein, c'est toi, petite rue-là, là. Ça va aller chercher toute la subvention qu'on avait pour 5 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui coûtait 2 000 $ pour mettre une conduite d'aqueduc, aqueduc égout et pluvial sur 1 mètre, de rue, ça coûtait 2 000 $ pour mettre. Au moment où on se parle, c'est rendu 5 000 $. Donc, on ne va pas loin avec la subvention qu'on nous donne. Donc, on doit faire une planification la plus songée. Et dans le programme général, on a aussi la possibilité de faire des études d'opportunités comme celle pour les étangs aérés. Donc, dans la planification, on a ces études-là qui sont comprises dans la subvention. Puis je fais faire aussi une autre étude de suivi pour notre aqueduc, dont l'aire d'alimentation comprend toute la zone d'extraction de sablière. Parce que, donc, nous, on avait une crainte de dire, bien là, l'exploitation de sablière s'élargit d'année en année, et ça va vite. Et ils ont un pouvoir absolu sur ce territoire-là. La loi sur les mines, elle est, c'est la loi la plus forte au Canada. Donc, notre puits d'eau potable, qui est dans un aquifère extraordinaire, bien, on voit que plus on enlève du sable, bien, plus l'aquifère est modifié. Puis d'autre part, cette compagnie-là d'extraction prélève de l'eau dans l'aquifère pour nettoyer les gravités. Donc, tout ça est conforme à la réglementation, on en est bien conscient, mais nous, on veut voir si notre source d'eau est menacée à moyen et long terme. Donc, on va mettre en place des systèmes de suivi, de voir comment la distribution d'eau se fait, la quantité d'eau, est-ce qu'elle s'amenuise, est-ce que pendant les étiages, c'est plus sévère, et surtout, est-ce que la qualité est toujours là. Donc, c'est une étude qui va être sortie en novembre, on l'attend en novembre, puis dans le courant de l'année, on va mettre en place ce programme de suivi-là.
Moi, je vous explique ma question. Comme vous savez, quand on doit mettre à jour la fosse septique avec tous les nouveaux systèmes, ça coûte cher. Même affaire pour nos puits, pour l'eau. Et puis, on entend beaucoup, beaucoup parler de tout le reste de la ville qui a plein d'affaires. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens qui ont déjà des fosses septiques puis qui payent pour leur propre fosse septique, payent pour leur eau, on n'est pas tout d'un coup impacté pour celle des autres, en plus de payer pour les nôtres.
Il y a une surtaxe pour ça, pour les services que vous n'avez pas. Il y a une taxe à une portion du compte de taxe des gens qui sont raccordés, que les gens qui ne sont pas raccordés n'ont pas.
Je suis d'accord avec toi. Sauf que je passe à plein qu'à un moment donné, des fois, tous ces travaux-là ne dépassent pas sur les comptes de taxe. Puis juste, on n'a jamais parlé. Et là, j'avais ma question parce que les nouvelles exigences, c'est cher, les nouvelles sceptiques. Puis un puits d'eau, c'est cher l'entretien. Là, ça vérifie ton eau, tes voiles, c'est correct. D'un coup, t'en as plus, il faut que tu refasses un autre trou. C'est pas simple. Puis on a déjà, on en paye déjà pas mal, juste pour nous tout.
Monsieur Gérard,
c'est personne qui paye pour nous, c'est nous qui payons pour nos propres affaires.
Monsieur Gérard, pour vous expliquer, on regarde la possibilité de faire des taxes de secteur. Hein? Ouais,
okay.
Mais écoutez, l'avenue du Rocher, c'est un grand puits de 67 résidences. Un qu'en ponceau, là, tantôt on parlait du ponceau numéro 2, là, on l'estime là, puis on va le faire en régie en grande partie, c'est 50 000 $ à peu près. On en a un autre derrière, c'est au-dessus de 100 000, puis j'en aurai un autre un peu plus loin, ça change. Un qu'en ponceau, là, c'est déjà plus cher que ce qu'on va mettre pour l'installation, pour l'usine de traitement des eaux. Fait que si on commence à jouer, de dire on départage les choses, pas sûr que les gens de l'avenue du Rocher vont être gagnants, même si on leur enlevait la taxe. Et d'ailleurs, la taxe, vous ne la payez pas.
L'avenue
du
Rocher,
là. Hein?
Vous
n'étiez
pas obligé de la faire,
l'avenue du Rocher. Ah, ben là, c'est l'autre
histoire. Le déneigement au moins linéaire aussi, les terrains sont très grands.
Au niveau des affectations, réserve de vidange de fosse septique et élections, cette année, il n'y en avait pas, puisque c'était notre année qu'on faisait la vidange et qu'on était en élection. Donc, je n'avais pas besoin de dépenser pour une réserve, mais pour les prochaines années, on va en avoir une. Fait que la seule dépense, dans le fond, c'est le 38 508 qui va se respecter. C'est le remboursement annuel pour le fonds de roulement des choses qu'on achète avec l'argent de santé de la ville, pour être capable de payer des choses sur plusieurs années sans avoir les taux d'intérêt et ces choses-là. Fait qu'au niveau des dépenses, sur notre 1 800 481, on s'attend à avoir 1 895 162 au 31 décembre, ce qui fait un écart de 94 681. Mais au total estimé au 31 décembre, on s'attend à avoir un surplus de 46 065. Puis juste à vous dire en information, moi j'ai rencontré le directeur des travaux publics, j'ai rencontré tous les départements pour dire qu'est-ce qu'il nous reste à dépenser jusqu'à la fin de l'année pour avoir le chiffre le plus réel possible. Fait que ça fait la différence. C'est là que vous voyez aussi que notre surplus de 555 762 au 30 septembre, ben là, il est plus réel avec nos 46 000. Fait que ça complète la présentation.
Je pense qu'il y a un final. Oui.
Ben, c'était pour expliquer ouais, la même chose.
Je l'ai remis,
les merci, Vincent. C'était la rue du Ruisseau.
Oui.
Elle n'a pas été refaite?
Il y a eu trois grosses réparations au cours des années. C'est une. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de joints dedans. C'est des liens conduites qui ont été raboutés. Et ça ne fait pas la job parce que là, actuellement, il y a une conduite pluviale qui passe en dessous des conduites sanitaires qui est écrasée. Et donc, là, il faut remettre ça propre parce que c'est des conduites en fente grise.
Donc, quand elle avait été refaite, la rue?
Non, l'asphalte avait été refait, mais pas la sous-fondation.
Pas la conduite.
Pas les conduites. Et c'est ça le problème des conduites. Ouais.
Puis la rue du Ruisseau, c'est qu'elle est très, très, très profonde. Le directeur, Louis-Philippe, qui est là, il peut vous le confirmer. Fait que ça fait que quand on a un bris d'aqueduc, c'est un bris d'aqueduc qu'au lieu de coûter 5 000, ben, il va coûter 15 000, 20 000 à chaque fois. Fait que là, ben, on veut regarder pour le faire avec notre programme tech, mais comme c'est gros, puis tant qu'à rouvrir, ben, on aimerait ça faire du manoir, du ruisseau, puis tous ces coins-là. Fait que c'est plus d'ampleur comme dépense.
En novembre, on donnait un mandat pour faire les relevés techniques, les plans et devis cet hiver. Puis idéalement, on ferait les travaux l'été prochain. Par contre, si la conduite nous joue des saltos, ben, il va falloir faire une intervention d'urgence. Oui, c'est pas très, très profond. Alors, donc, on veut tout relever aussi les profils des conduites. En bref, je ne veux pas rentrer dans le technique, là, mais c'est des zones problématiques. Tu sais, on en a quelques-unes comme ça, hein? On n'en parle pas. Ici, à l'arrière, c'est bouché, là. Et on a une conduite qui est bouchée. Il va falloir faire notre... Le directeur de travaux publics va être obligé de faire un peu de spéologie pour aller déboucher ça. On a un sanitaire entre Desmonts et Avenue du Lac aussi qui nous inquiète parce qu'il y a plein de racines et c'est tout en arrière-eau. C'est pas facile. Fait que ça, c'est un autre projet aussi qu'on doit faire là, absolument dans le cadre. Donc, dans le cadre de la subvention de 600 quelques mille, là, il faut jauger qu'est-ce qui est le plus important puis qu'est-ce qu'on est capable de gérer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, merci beaucoup, Mélissa.
Bienvenue.
Tu as bien présenté ça. Donc, période de questions d'ordre général? Non? Donc, je demande aux propositions de lever l'Assemblée.
Je vais proposer, vous. Appuyez par moi, Alexandre Morin.
Jean-Baptiste. Alex. Bon, merci bien.
Oui, merci.
Vous avez content de la sélection, beaucoup de candidats. Moi, je suis très content qu'il y ait autant de candidats que ça. Donc, on s'intéresse à la politique municipale. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde.
Merci. Oui, Marie.
C'était par rapport justement aux élections, excusez, c'est parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, là, mais je voulais voir que, autant pour le vote par anticipation que la journée du vote le 2 novembre, dans l'organisation comité, comment ça va se passer, est-ce que vous allez devoir engager des scrutateurs, des scrutatrices?
Bien, on va voir premièrement vendredi, est-ce que j'ai des postes qui vont être élus par acclamation. Déjà, en partant, ça fait la différence à savoir est-ce que j'ai 7 sièges, est-ce que j'en ai 4, est-ce que j'en ai 5. Ça, on ne peut pas le savoir. Là, j'ai la confirmation qu'on a 3 postes en élection. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont jusqu'à vendredi 16h30. Fait que vendredi 16h30, c'est là qu'on va élire les candidats par acclamation. Après ça, on va voir là, les besoins, qu'est-ce qu'il y en a. Pour le moment, j'ai quand même aussi Isabelle qui travaille avec moi, puis j'ai François qui est le président de l'élection. Mais je vous tiens au courant là, de comment le dénouement va se passer.
Merci.
Bienvenue.
Merci. Merci bien. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci.